9h-10h, Céline Landreau et Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, et oui, comme vient de le dire Julien, 2h30 d'infos, c'est votre programme de l'info, mais aussi des reportages, des invités, de l'opinion, votre opinion, vos témoignages. On vous attend à partir de 13h, un seul numéro, le 3210, pour commenter l'actualité et réagir à l'actualité, l'info, justement, c'est tout de suite, c'est avec vous. Bonjour Céline Landreau.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et à la une, la réforme sociétale la plus sensible du quinquennat, parce qu'elle nous touche tous, nous renvoie à nos convictions, nos interrogations les plus profondes, parce qu'elle est aussi une réponse à des situations souvent très douloureuses et insolubles. Le gouvernement présente aujourd'hui sa proposition de loi sur la fin de vie, avec comme mesure phare la légalisation d'un suicide assisté très encadré, même si l'exécutif préfère lui parler d'aide à mourir. Pour qui, dans quelles conditions? On vous explique tout dès le début du journal. À suivre aussi, Jonathan Daval à nouveau devant les juges, le meurtrier de sa femme Alexia est cette fois jugé pour dénonciation calomnieuse contre son beau-frère qu'il avait accusé du meurtre d'Alexia. Le prix des carburants qui flambe, 1,90 pour le sans-plomb 95, c'est du jamais vu depuis 6 mois. Comment expliquer tout ça? On y revient à 12h40. Et puis le foot et le Paris Saint-Germain face au Barça et à son destin ce soir en quart des finales de la Ligue des Champions. Et puis à partir de 13h, vous le savez, un numéro, le 3210, pour prendre la parole avec Vincent.
Évidemment, alors vous l'avez évoqué, hein, cette légalisation très encadrée d'un suicide assisté, l'aide à mourir. Qu'en pensez-vous? Dites-nous, on vous attend au 3210. D'autres sujets très importants, l'éventualité d'élargir le licenciement des fonctionnaires. Un tabou a été levé, sans doute par Stanislas Guérini, qui souhaite lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. On vous attend, vous pouvez réagir. La ville de Bègles, dans la banlieue de Bordeaux, qui veut expérimenter la légalisation du cannabis, ou encore le prix du carburant, comment faire pour protéger les automobilistes de cette inflation. On vous attend, 3210.
La météo avec vous aujourd'hui, Caroline Chimot. Bonjour Caroline.
Bonjour, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Une journée plutôt calme et ensoleillée, mais qui va voir revenir par la Bretagne. Dès cet après-midi, une nouvelle perturbation.
On regarde par l'ouest alors. Merci Caroline, à tout à l'heure.
RTL Midi.
C'est la grande loi sociétale du quinquennat. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi sur la fin de vie, texte sensible s'il en est, qui ouvrira la possibilité d'un suicide assisté dans des conditions très strictes. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Le terme lui-même fait débat et d'ailleurs l'exécutif préfère une autre formule.
Oui, l'aide à mourir, un nouveau modèle entre euthanasie et suicide assisté, car Emmanuel Macron refuse chacune de ces expressions. L'euthanasie, c'est administrer délibérément une substance létale à un patient, à sa demande ou à celle d'un proche. Le suicide assisté, c'est la personne en fin de vie qui choisit elle-même de réaliser le geste. Là, ce projet de loi prévoit un entre-deux avec un cadre très réglementé.
Alors très concret. Concrètement, Mathilde, ce droit à l'aide à mourir, comme l'appelle le gouvernement, il serait accordé à qui?
Il faudra remplir 4 conditions. Déjà, être majeur, né en France ou y résider de longue date. Deuxième critère, être toujours capable d'exprimer ses dernières volontés avec discernement. Cela exclut les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénératives comme Alzheimer. Et puis la maladie devra être incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Ça pourrait être le cas pour certains cancers. La dernière condition, c'est celle des souffrances intolérables et impossibles à soulager.
Et qui prendra la décision d'accorder ce droit à mourir?
Son médecin directement, mais il ne sera pas seul. Il devra consulter un médecin de spécialité et un paramédical comme un infirmier. La décision sera prise sous 15 jours pour laisser le temps au patient de réfléchir et de lui proposer des soins palliatifs.
Bon, tout cela maintenant doit être validé par les parlementaires. Ça promet, Mathilde, des débats longs et difficiles.
Oui, il va déjà falloir préciser certains critères. Comment, par exemple, définir le court et le moyen terme? Et puis, il y aura des discussions d'ordre éthique parce que certains parlementaires contestent le principe même d'une aide à mourir. Ils appellent à un renforcement majeur des soins palliatifs. Un plan gouvernemental sur le sujet a déjà été annoncé le week-end dernier en ce sens.
Merci beaucoup Mathilde Piquet. Les dernières heures de tractation n'auront rien réglé. Les négociations sur l'emploi des seniors ont échoué. Cette nuit, aucun accord n'a été trouvé par les syndicats et le patronat. Et puis, on apprend ce matin que la CGT a déposé des préavis de grève dans les 3 branches de la fonction publique sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Un nouvel épisode dans le bras de fer entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats. magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature dénonce ce matin les propos du ministre de la Justice le 19 mars dernier. Des propos de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs, selon le CSM. Lors d'un déplacement à Marseille avec le chef de l'État, Éric Dupond-Moretti aurait recadré des magistrats qui avaient, selon lui, tenu des propos empreints de défaitisme, faisant le jeu du RN en disant, notamment devant une commission de parlementaires, craindre d'être en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille.
Comme pour le maire d'Agde, la semaine passée, la justice a décidé du maintien en détention de la voyante dans cette affaire.
Oui, vous vous rappelez peut-être de cette histoire assez inédite. Cette femme, médium et ventriloque qui a abusé du maire Gilles Détort, aujourd'hui poursuivi pour prise illégale d'intérêt et corruption. Elle est poursuivie pour escroquerie et abus de confiance. Ce qu'elle n'avait peut-être pas prédit, cette médium, Patrick, c'est qu'elle resterait derrière les barreaux.
Oui, c'est une terrible déconvenue. Hier, cette très belle femme brune, très méditerranéenne, n'a pas pu retenir ses larmes devant la chambre de l'instruction. Elle a peur, elle le dit, je suis stressée. Sa fille aînée, seul soutien dans la salle, tente de lui adresser un sourire. Alors comme l'avocat général, elle demande le huis clos, car en plus, elle a honte. Elle a tout avoué, en particulier l'abus de son talent de ventriloque qui faisait parler l'archange Saint-Michel dans le téléphone portable du maire d'Agde. Luc Abrakiewicz, c'est son avocat, il tente une explication.
Je pense que parfois les gens perdent pied. Voilà, à force de vouloir briller, à force de vouloir exister, on se brûle les ailes. Je pense qu'elle voulait de la reconnaissance, qu'elle voulait exister et qu'il y a des failles profondes qu'elle a essayé de combler à travers effectivement des cadeaux, des gratifications. Mais on sait que l'argent ne répare aucune faille.
C'était tout de même un étrange système, très efficace, par exemple, pour la véranda de sa nouvelle villa, 45 000 euros. Sophia passait commande en appelant le maire avec la voix de l'archange, ce dernier s'est brouillé pour obéir à la voix. Dans ce cas, il a contacté le directeur local d'Eiffage, grande entreprise de construction, qui, lui, ne pouvait rien refuser à l'un de ses principaux donneurs d'ordre. Ce dernier surfacturait une prestation pour installer gratuitement la véranda chez Sophia.
C'est pratique, remarque.
Patrick Tégéraud pour RTL.
Payer les agriculteurs pour les inciter à capter le carbone, et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Voilà ce que devraient voter les députés européens cet après-midi.
Une incitation financière pour pousser les agriculteurs à transformer leurs fermes. Car si l'agriculture est une grande émettrice de carbone, elle est aussi l'un des rares secteurs à pouvoir le capter, Virginie Garand.
Oui, il y a les océans qui absorbent du carbone. Hein, c'est surtout le plancton qui l'utilise pour grandir. Et puis les forêts et l'agriculture, toutes les plantes qui poussent, en fait, grignotent le carbone qui est dans l'air et le transforment en oxygène. Donc, une ferme, elle va en émettre avec le tracteur, les rots des vaches, mais elle peut en capter. Et comment ? Eh bien, en faisant pousser des haies, des arbres, ou en augmentant les surfaces de prairies, parce que l'herbe, les petites fleurs, consomment énormément de carbone pour pousser. Et puis ensuite, quand elles meurent, elles l'emprisonnent dans le sol, il s'accumule, à condition de ne pas labourer chaque année. Il faut des prairies permanentes. Et puis, un champ de blé aussi capte du carbone. Toutes les grandes cultures sont importantes, à condition que le sol ne soit jamais nu. Donc, il faut en permanence faire pousser quelque chose. Alors, faire des rotations entre du blé et du maïs, on met de la luzerne ou des pois. Toutes ces méthodes que certains pratiquent déjà. Aujourd'hui, on a par exemple en France 18 000 éleveurs laitiers qui ont des fermes bas carbone. Eh bien, ces agriculteurs doivent être mieux indemnisés, dit l'Europe.
Merci beaucoup Virginie Garin, spécialiste des questions agricoles sur RTL.
Bon, cette fois c'est l'heure de vérité hein, pour le Paris Saint-Germain qui affronte le Barça, le FC Barcelone ce soir, quart de finale de la Ligue des Champions.
Un nouveau chapitre hein, de la rivalité électrique, disons-le, entre les deux clubs, marqué évidemment par la remontada de 2017. Coup d'envoi ce soir à 21h, ce sera à vivre évidemment sur RTL. Rencontre sous très haute sécurité aussi, après les menaces sur internet du groupe État islamique visant les quarts de finale européens. Un contexte particulier sur lequel est revenu le coach parisien Luis Enrique.
Qui ici ne s'inquiète pas de cette situation et de savoir que certaines villes, certains pays sont menacés? On ne peut que s'inquiéter de cela. C'est quelque chose qui, j'espère, peut être contrôlé et que tout cela restera à l'état de menace. Bien sûr que ça inquiète tout le monde.
Luis Enrique, le coach parisien avec Nicolas Georgerot. Caroline Chimo, la météo pour cet après-midi.
Eh bien, cet après-midi, comme prévu, beaucoup de soleil sur les trois quarts du pays. En Bretagne et en Normandie, le ciel est plus couvert. Les pluies sont d'ailleurs en train de se présenter sur la pointe bretonne. Ça sent nuage en cours d'après-midi sur les Hauts-de-France et les Pays de la Loire. Mais là, on va rester au sec. Quelques ondées circulent en revanche au sud de la Garonne sous forme de neige dans les Pyrénées à partir de 1600 mètres d'altitude. C'est aussi plus couvert entre la Côte d'Azur et la Corse. Là aussi, quelques fines pluies sont attendues partout ailleurs. Le soleil est bien présent, particulièrement majoritairement sur un large quart nord-est et vers le golfe du Lion. Là, en revanche, ça souffle fort, jusqu'à 100 km/h en rafale, en cause Mistral et Tramontagne. Pour les températures, on attend cet après-midi 12 à Cherbourg ou à Belfort, 13 pour Lyon ou pour Brest, 14 à Arras, à Nantes ou à Strasbourg, 16 à Paris ou à Bordeaux et une maximale de 18 à Montpellier.
Et vous confirmez une fin de semaine quasi estivale ?
Qui va être douce, très douce, de plus en plus douce.
Je vous préviens, ça va être l'obsession de Vincent jusqu'au week-end. Est-ce qu'il pourra faire un barbecue ?
Eh ben, j'ai déjà commencé à gratter, il va être...
Allez-y Vincent, on tombe la veste, c'est bon.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et oui, c'est chaque jour au quotidien, l'info au plus près de vous. Et là, l'info au plus près de Bègue. Bègue, c'est juste à côté de Bordeaux, ça touche Bordeaux. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Vincent, bonjour Céline.
Bonjour Philippe. Philippe, alors que l'Allemagne vient de légaliser l'usage du cannabis, le maire de Bègue lui propose de suivre le mouvement. Expliquez-nous, il veut créer un petit Amsterdam en Gironde ?
Alors, c'est pas vraiment l'objectif de Clément Rossignol-Puech, le maire ELV de Bègue. Il a lancé cette réflexion il y a un an. Son constat, 1 million de consommateurs réguliers de cannabis en France, record européen. Le meilleur moyen, selon lui, d'écraser les réseaux de deal, c'est de lever la prohibition. Alors, pas en ouvrant des guichets de distribution, mais avec une expérimentation grandeur nature, permettre à un petit groupe d'habitants de fumer légalement.
Donc 100 béglaises et béglais volontaires, déjà consommateurs, avec on essaye des profils différents, qui pourraient pendant 5 ans consommer légalement du cannabis à des dosages différents, un produit tracé, produit pas très loin, bio, en filière courte, et surtout bien dosé pour que les consommateurs sachent qu'ils consomment.
Et le tout avec un suivi médical et évidemment revente interdite pour ce petit groupe de cobayes.
Alors qu'en disent les béglais et pas seulement les fumeurs évidemment Philippe ?
Oui, j'ai élargi le spectre. Alors il y a les contres comme Ludovic.
Je pense pas que ce soit bon. Hein. Pousser plein d'autres personnes à le faire.
À consommer ?
Ouais. À le faire et même à vendre, si c'est légalisé.
Une fois que c'est libre, on fait ce qu'on veut. Quoi.
Exactement. D'accord. C'est pour ça que je trouve ça stupide. Ça nique un peu le cerveau des jeunes, je trouve. Je connais quelques fumeurs, et c'est pas... ça casse, ça c'est sûr.
Et il y a les plutôt pour, comme Anne, écoutez.
Si c'est légalisé, peut-être que ça pourrait être un peu entouré. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on autorise à ce que les gens conduisent sous l'emprise des cannabis. Mais dans tous les cas, il y en a. Ça aide aussi pour ceux qui sont malades. Donc il y a des arguments, mais je pense qu'il y a beaucoup de pour et un peu moins de contre petit à petit.
Et la mairie multiplie les réunions publiques, il y en a une ce soir, avec des addictologues pour faire avancer ce projet.
Oui, mais la mairie, elle ne va pas décider seule, Philippe. Que dit le gouvernement ?
Alors évidemment que non, et c'est une fin de non-recevoir de Gérald Darmanin qui dit pouvoir faire baisser la consommation par une stratégie, je cite, ferme, de répression et de prévention. Alors Clément Rossignol-Puech en appelle au président.
Je me souviens très bien ce que le candidat Emmanuel Macron disait en 2017, qu'il était... pas défavorable à ouvrir le débat national et pas défavorable à expérimenter la légalisation encadrée. Donc je lui dis chiche.
Et l'argument ultime du maire de Bègue, c'est libérer les forces de l'ordre mobilisées sur le trafic de cannabis pour lutter contre les autres trafics, notamment le trafic des drogues dures. Mais ce n'est pas forcément un argument qui fera bouger le gouvernement.
Ouais, ce n'est pas, semble-t-il, la tendance actuellement, effectivement, pour l'exécutif. Merci. Exactement. Philippe de Maria. On va y revenir justement sur cette demande de la mairie de Bègue, qui est aussi une demande faite par la mairie de Strasbourg de pouvoir expérimenter d'une manière ou d'une autre une forme de légalisation du cannabis pour voir quels en seraient les effets. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on fasse comme ça des tests, des expérimentations locales pour alimenter ce débat sur l'éventualité un jour de légaliser le cannabis comme l'ont fait nos voisins allemands. Eh bien, nous en parlons 32-10.
Avant ça, dans un instant, Jonathan Daval de retour face au juge.
Céline Landreau, Vincent Parisot. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi. Avec Vincent Parisot et Céline Landreau.
Jonathan Daval se retrouve une nouvelle fois devant les juges cet après-midi, lui qui purge déjà une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme, Alexia, en 2017.
Bonjour Planar Radenovic.
Bonjour.
Vous allez suivre ce procès pour RTL cet après-midi. Cette fois, Jonathan Daval sera jugé pour dénonciation calomnieuse.
Oui, la famille Fouillot reproche à Jonathan Daval d'avoir menti au cours de l'instruction. C'était le 27 juin 2018. Dans le bureau de la juge qui l'interroge, il échafaude alors une nouvelle version ubuesque. Il est à ce moment-là mis en examen depuis 6 mois pour le meurtre de son épouse Alexia, meurtre qu'il a reconnu en janvier 2018 devant cette même juge d'instruction. Mais voilà, en ce jour de juin 2018, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais il accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir tué Alexia couvert par le reste de la famille. Lui n'aurait fait que déplacer le corps. 6 mois plus tard, Jonathan Daval finit par le reconnaître lors d'une confrontation avec Isabelle Fouillot, la mère de la victime. Il a tout inventé. Gilles Jean Portejoie est l'avocat des parents d'Alexia, de sa sœur et du mari de cette dernière. Il insiste sur le préjudice subi par ses clients.
C'était un véritable calvaire ces 6 mois. Du jour au lendemain, tout change. Grégory me dit, mais moi, le regard de mes collègues au travail... ont bougé. J'ai bien vu qu'il y avait un zeste de doute qui avait été instillé. Jean-Pierre Fouillot me dit, mais dans mon restaurant, les gens me regardaient bizarrement, me posaient un certain nombre de questions, comme si on prenait en considération véritablement les accusations de Daval. Il n'y a pas de fumée sans feu.
C'est ces 6 mois de mensonges ultra-médiatisés que la famille d'Alexia entend réparer tout à l'heure à l'audience.
Donc il est jugé pour ce mensonge, pour cette dénonciation calomnieuse, Plana. Et qu'est-ce qu'il risque donc dans ce dossier ?
Eh bien, il risque surtout de devoir payer de lourds dommages et intérêts, car la dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans de prison au maximum, mais cette peine serait confondue avec les 25 ans qu'il purge déjà pour l'homicide de sa femme. Donc la famille Fouillot réclame en tout 60 000 euros de dommages et intérêts, 30 000 euros pour Grégory Gay et 10 000 pour chacun des autres membres de la famille.
Il reste quand même un point à régler, et la mère de Jonathan Daval, Martine Henry, en a parlé ce matin sur RTL.
Oui, c'est l'épineuse question de la succession. On écoute Martine Henry.
J'espère que c'est le dernier procès. Oui, ça sera un soulagement. Et après, qu'on reste tranquille, tout chacun de notre côté, et qu'on fasse la succession, que tout ça soit fini. Parce que c'est long, c'est épuisant, on voudrait que ça s'arrête.
Oui, parce qu'il faut dire que ça fait 2 ans et demi que la succession est à l'arrêt.
Comment expliquer justement que ce soit si long ?
En fait, lorsqu'Alexia est décédée, les assurances ont permis de payer le prêt de la fameuse maison de Crépy-Rose au volet bleu, celle qui a été filmée par tant de caméras dans le village de Grès, là où le meurtre s'est déroulé. Donc, comme Jonathan Daval et Alexia Fouillot étaient mariés sous le régime de la communauté, il revient à Jonathan Daval la moitié de la maison. Les Fouillot voudraient la récupérer, mais pour ça, ils devraient rembourser environ 90 000 euros à leur ancien gendre. Et ça, ils ne veulent pas l'accepter.
C'est un sujet de tension de plus entre les deux familles qui habitent à proximité l'une de l'autre, Plana, et qui peuvent donc être amenées à se croiser.
Oui, d'ailleurs, les deux familles pourraient même se croiser au cimetière de Grès, car Martine Henry, elle aussi, va se recueillir sur la tombe d'Alexia. Alexia sera toujours en nous, m'a-t-elle dit tout à l'heure. Les deux familles ne s'entendaient absolument pas déjà bien avant le drame. Évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus tendu. Le face-à-face tout à l'heure au tribunal risque d'être très difficile à vivre de part et d'autre.
Un dernier mot, Plana. Aujourd'hui, Jonathan Daval est incarcéré à Ensisheim, en Alsace. Il est libérable sur le papier. À quelle date ?
Alors, ça fait aujourd'hui un peu plus de 6 ans qu'il est en prison. Il a été condamné à 25 ans, mais sans période de sûreté. Selon ses avocats, donc, il serait accessible à une libération conditionnelle à partir de 2030. Mais ni lui, ni sa maman ne se projettent jusque-là. Pour le moment, il trouve qu'il est à sa place en prison et qu'il mérite sa peine. Il n'a d'ailleurs jamais pensé à faire appel.
Merci beaucoup, Plana Radenovic, service police-justice de RTL, à Besançon. Donc, vous allez suivre ce procès cet après-midi.
Il est midi 20, merci de votre fidélité. Dans un instant, ce sera RTL Midi, votre vie. On va s'intéresser au langage des tout-petits et notamment se demander, faut-il s'inquiéter quand à 2-3 ans, votre enfant ne parle pas ou si peu ? A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Oui, votre vie, c'est l'info qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, on a voulu parler langage, voyez-vous, parce qu'on cause, c'est bien gentil, mais il y a l'apprentissage du langage, c'est un moment effectivement très important au début de la vie.
Car vous avez peut-être entendu, comme nous, lundi sur RTL, ce témoignage d'un papa d'un enfant de 3 ans, enfant accro aux écrans. Et le papa s'était rendu compte, lorsque son fils est entré en maternelle, qu'il avait des problèmes de langage.
Quand je suis arrivé à la rentrée, c'était le seul enfant qui parlait pas, en fait.
Qu'est-ce que tu dis ?
papa en voiture.
T'es venu avec papa en voiture pour venir à l'hôpital?
Des propos recueillis par Agathe Landais. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, nous accueillons donc Naomi Yamaguchi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en sciences du langage à l'Université Sorbonne Nouvelle et au laboratoire de phonétique et de phonologie. On vient d'entendre cet enfant de 3 ans qui prononce quelques mots mais qui n'arrive pas à faire une phrase complète. Pour les parents, grands-parents qui nous écoutent et qui ont besoin de repères, comment savoir si nos enfants apprennent à parler, disons, correctement? À quel âge est-ce qu'on est censé prononcer ses premiers mots, par exemple?
Alors déjà, prononcer ces mots, c'est pas forcément en parler, en fait. Il faut savoir que l'enfant, il va pas tout de suite prononcer des mots adultes. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par exemple, un mot comme au revoir qui arrive très très tôt chez les enfants, souvent ça va pas être au revoir, mais awa, par exemple. Donc en fait, il faut bien faire attention à ce qu'on entend par les premiers mots. Est-ce que c'est des premiers mots reconnaissables par l'adulte ou vraiment des mots produits par l'enfant? Donc les premiers mots, ils vont pas ressembler à ce qu'on entend, quoi. Et c'est généralement, ils émergent entre 12 et 18 ans. Première année de vie, après un an, en fait, voilà.
Et les phrases?
Les phrases c'est plus dur, avec une phrase. Un sujet, un verbe.
C'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que les enfants, ils vont pas commencer avec déterminant nom, verbe, déterminant nom, etc. pour faire des phrases. Les premières phrases, en fait, ce sera plutôt des combinaisons de mots. Par exemple, tata partie. Et ça, c'est déjà une phrase parce qu'on met en rapport deux mots ensemble. C'est déjà la première phrase, en fait. Et puis, petit à petit, les enfants, ils vont dire des, pas encore des mots grammaticaux, des choses qui vont ressembler à des mots grammaticaux, comme par exemple, et chapeau, et papeau, qui voudra dire le chapeau. Et ça aussi, c'est les premières étapes, en fait.
C'est autour de quel âge, ça? Tata partie ou le chapeau?
Vers deux ans, première combinaison de mots, donc vraiment l'émergence de la première grammaire, on dirait. Voilà.
À 3 ans, pour reprendre notre exemple du début, est-ce que l'on a une idée du vocabulaire, par exemple, du nombre de mots qu'un enfant est censé connaître, comprendre et formuler?
Alors, c'est hyper variable d'un enfant à un autre, et ça, c'est assez important de le dire, parce que la moyenne, c'est environ 500 mots différents produits à 3 ans. Mais ça peut être 200, ça peut être 800, c'est vraiment hyper variable. L'entrée dans le langage, elle se fait pas forcément par des mots, elle se fait aussi, par exemple, par les sons de la langue, elle se fait aussi par exemple, apprendre à être dans une conversation, apprendre à faire des tours de parole, je parle, tu parles, je pose une question avec l'intonation montante, ça aussi, c'est du langage, et c'est de l'entrée dans le langage.
Alors justement, là, vous parlez de dialogue. Comment on s'adresse à son bébé ou à son petit enfant? Est-ce que, enfin, vous voyez où je veux venir? Est-ce qu'on lui parle comme un bébé ou est-ce qu'on parle normalement comme on parlerait à n'importe qui?
En fait, parler bébé à un enfant, à un enfant jeune avant un an, c'est en fait assez positif pour lui, parce que exagérer des intonations ou avoir des mots plus simples comme dodo, bébé, etc., miam miam, en fait, ça aide l'enfant à repérer les mots, à repérer justement que le langage, il est différent. On peut avoir des questions, on peut avoir des affirmations. Et donc, exagérer, parler bébé, c'est plutôt positif.
Avant un an.
Jusqu'à un certain âge.
Voilà. Mais de toute façon, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que quand l'enfant commence à produire des mots, en fait, les parents vont naturellement s'adapter et le langage des parents va devenir aussi de plus en plus complexe. Et ça, c'est parfait, en fait, pour l'acquisition du langage.
Vous le disiez, au départ, les enfants prononcent les mots pas forcément Exactement. De manière correcte. Est-ce qu'on les reprend systématiquement jusqu'à ce qu'ils comprennent bien ou est-ce qu'on peut les laisser parce que c'est aussi marrant, mignon?
Et est-ce qu'on peut rire? Et est-ce qu'on peut rire aussi, d'ailleurs, de leurs erreurs?
Alors, en fait, on peut tout faire. Le pire étant d'insister sur l'erreur, en fait. Parce qu'en fait, l'enfant, il va apprendre à parler naturellement dans des conversations naturelles. Le pire qu'on pourrait faire, c'est couper la conversation pour dire là, t'as fait une erreur, etc. Alors qu'on parlait, on
était. Ça risque de le bloquer, en fait.
Et puis voilà, on était dans une conversation avec l'enfant qui était un participant à part entière de la conversation. On bloque la conversation pour insister sur l'erreur. Et l'enfant, après, voilà, on va plus parler avec l'enfant. Le plus important, c'est parler avec l'enfant, interagir avec l'enfant. Et il apprendra de lui-même, il se reprendra lui-même.
Merci beaucoup Naomi Yamaguchi. On rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en sciences du langage à l'université Sorbonne Nouvelle. Donc on n'hésite pas à en faire beaucoup jusqu'à un an.
Parler
et puis après ça vient
tout
seul.
C'est ce qu'il y a de mieux pour son langage.
Merci encore d'être intervenue dans RTL Midi.
Allez, courte pause, il va être 12h30 et vous le savez, à 12h30 sur RTL, c'est un journal complet. À tout de suite.
RTL Midi. Vincent Parisot, Céline Landreau. S'informer ensemble.
Il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30.
12h30, Céline Landreau, Hermine Leclèche.
Et à 12h30, effectivement, c'est votre grande édition de la mi-journée. Avec vous, Hermine, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et à la une, un adolescent de 15 ans tué hier soir à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.
Dans le quartier de la Monnaie, plus précisément, bien connu depuis la mort du jeune Thomas à Crépol. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, pas question de licencier plus facilement les fonctionnaires. La CGT répond à Stanislas Guérini et dépose un préavis de grève pour les Jeux Olympiques. Une nouvelle politique migratoire sur le point d'être votée au Parlement européen. Et puis PSG-Barça, quart de finale aller de la Ligue des Champions, c'est ce soir et ça pourrait être plus serré que prévu.
Après le journal, la flambée des prix du carburant. 1,90€ pour le sans-plomb 95, à peine moins pour le gasoil. Mais pourquoi les tarifs s'envolent et peut-on espérer un coup de pouce du gouvernement? Les réponses donc dans 10 minutes. Et puis juste avant 13h, laissez-vous tenter à midi, nous sommes mercredi. On parlera donc cinéma avec Stéphane Boutsock qui nous dira tout le bien qu'il pense de la famille Leroy. À 13h, vous le savez, vous avez rendez-vous avec nous dans les auditeurs en la parole, Vincent.
Effectivement, pour réagir à l'actualité. Alors, vous avez parlé du prix des carburants. Effectivement, est-ce que le gouvernement doit reprendre la main? Est-ce qu'on peut envisager un nouveau chèque carburant? Plafonner les prix? Et on attend vos propositions. Sinon, évidemment, le grand dossier du jour, c'est la grande loi sociétale du quinquennat, le texte sur le suicide assisté, qui est en Conseil des ministres, pour ou contre. Le licenciement des fonctionnaires, il faut lever le tabou, dit Stanislas Guérini, dit tout ce que vous en pensez. Et faut-il expérimenter la légalisation du cannabis comme Bègle ou Strasbourg le demandent? On vous attend 32-10.
La météo, Caroline, un indice?
Alors un indice, ce sera une journée plutôt calme et ensoleillée sur les trois quarts du pays. En revanche, c'est plus perturbé en Bretagne et en Normandie actuellement.
Merci Caroline, météo complète à la fin de ce journal.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Et ce drame, d'abord un adolescent de 15 ans poignardé à mort hier à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ça s'est passé dans le quartier de la Monnaie dont on a déjà beaucoup parlé sur RTL après la mort du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol à l'automne dernier. Serge Peuillot, bonjour.
Bonjour.
Cette fois-ci, l'adolescent a reçu un coup de couteau dans le dos. Hospitalisé, il n'a pas survécu à ses blessures.
Oui, alors les faits se sont déroulés vers 22h au pied d'un immeuble de la cité. Le jeune Zakaria, 15 ans, inconnu des services de police, s'est retrouvé pris au milieu d'une bagarre dont le motif serait futile. Il pourrait même être une victime collatérale. L'adolescent a reçu un coup de couteau dans le dos. Il est mort peu après à l'hôpital. Ce matin, les habitants du quartier de la Monnaie sont sous le choc.
Ça fait froid dans le dos. Je pense à la famille. Je suis allé présenter les condoléances. Le père, il est bouleversé. La maman, alors, je ne raconte pas. C'est triste.
Il allait avoir 16 ans, je crois, le mois prochain. Ouais, je suis dégoûté. Je ne peux pas vous dire plus, je suis dégoûté. Vous
ne comprenez pas une telle violence?
Non, je ne comprends pas. Mais alors, pas du tout. Hein. Non, c'est pas, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
La mère de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, dénonce une nouvelle fois cette violence qui gangrène la cité de la Monnaie.
On a une poignée d'individus qui ne respectent absolument aucune règle, qui s'octroient des droits, qui définissent des zones de non-droit et qui manifestement correspondent à un niveau d'ensauvagement qui dépasse l'entendement aujourd'hui.
Vous estimez que ces gens-là font ce qu'ils veulent dans leur quartier?
J'oserais vous dire que nous sommes des millions à le constater, monsieur.
Un suspect aurait été identifié. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée spécialisée.
Merci Serge Puyot en direct de Romans-sur-Isère, dans la Drôme.
RTL Midi.
Après Force ouvrière, la CGT dépose à son tour des préavis de grève dans la fonction publique pour les Jeux Olympiques.
Le syndicat demande des recrutements et des compensations salariales à cause de la surcharge de travail que demande l'événement aux fonctionnaires. Le timing de ce préavis n'est pas non plus un hasard. C'est aussi une réponse à Stanislas Guérini. Le ministre de la fonction publique souhaite, je cite, « lever le tabou du licenciement des fonctionnaires ». Comprenez, l'emploi à vie, c'est fini. Et ça, c'est un tollé général chez les syndicats. Pour Céline Verzoletti, secrétaire générale à la CGT, le ministre manque purement et simplement de respect à ses agents.
C'est un véritable mépris vis-à-vis des agents et des agents de la fonction publique parce que si on l'écoute, on a l'impression que les agents travailleraient mal, qu'il n'y aurait aucune obligation professionnelle, ce qui est complètement faux. Et ça serait bien aussi qu'il arrête de stigmatiser de cette manière-là les agents de la fonction publique qui sont déjà épuisés parce qu'ils ont des conditions de travail très très dégradées. Puisque le gouvernement n'a que ce mot à la bouche, économie, économie, austérité, austérité, qu'il l'assume, qu'en effet, ils veulent qu'il y ait beaucoup moins d'agents de la fonction publique au prix d'une grave détérioration d'un service qui doit être rendu à la population, aux usagers, aux usagères.
Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL.
Justement, à propos d'économie, Bercy dévoile cet après-midi sa trajectoire économique pour les prochaines années.
Dans un contexte de hausse du déficit public, Bruno Le Maire voulait rester en dessous des 5%. Ce sera très probablement au-dessus, loin, très loin des 3% fixés par Bruxelles d'ici 2027. Une aubaine pour la droite à l'approche des élections européennes. Les Républicains ne décollent pas dans les sondages, Julien Fautra. Et le parti mise tout sur son sérieux économique pour ramener les macronistes déçus au bercail.
Oui, LR tente d'imposer une idée que le gouvernement, c'est sûr, se prépare à augmenter les impôts. Écoutez Olivier Marleix.
On a toutes les raisons de penser qu'il y a un plan caché du gouvernement qui travaille mais qui veut surtout rien dire. Je pense qu'il faut que les Français le sachent avant les élections et pas au lendemain des élections.
Admettons, il y a un plan secret pour une augmentation d'impôts. Est-ce que primo, LR ira jusqu'à déposer à l'Assemblée nationale une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement ? Pour le moment, c'est pas clair. Et puis, secondo, concrètement, quelles économies, où les faire ? Supprimer des agences de l'État, répond Éric Ciotti, mais sans supprimer de postes.
Il faut supprimer des strates, supprimer les ARS.
Vous licenciez des gens ?
Un enjeu, non. Personne ne sera licencié, mais il y aura des redéploiements, il y aura moins de recrutements.
Au fond, LR fait surtout un pari aujourd'hui que ce thème de la rigueur budgétaire animera toute la campagne des européennes.
Reportage de Julien Fautra du service politique de RTL. Le projet de loi sur la fin de vie présente ce matin en Conseil des ministres des détails, notamment sur les conditions d'accès à l'aide au suicide assisté. Il faudra être majeur, atteint d'une maladie ou de souffrance incurable, capable d'exprimer sa volonté et voir son pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Les débats pourraient durer plus d'un an.
Après plus de 4 ans de négociations, voilà un vote crucial cet après-midi au Parlement européen.
Les eurodéputés doivent se prononcer sur un nouvel accord asile et immigration, un texte censé faciliter, accélérer la prise en charge des réfugiés dans l'Union européenne. Il vise aussi à mieux répartir la charge entre les 27 États membres. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Très concrètement, qu'est-ce que va changer ce texte s'il est adopté ?
Alors, une dizaine de règlements. D'abord, toute personne de plus de 6 ans qui se présente aux frontières de l'Union européenne sera enregistrée dans un fichier central. Au bout d'une semaine, soit elle obtiendra un titre de séjour de 6 mois maximum. On estime alors qu'elle aura sûrement droit au statut de demandeur d'asile. Soit c'est plus douteux et là, elle sera placée dans un centre de rétention fermé. L'Europe construit 30 000 places pour ces centres de rétention. C'est le cas en Albanie, par exemple, avec un bâtiment commandé par l'Italie. Les migrants placés verront leur demande traitée sous 6 mois. Adoption aussi, peut-être cet après-midi, d'un mécanisme de solidarité. Vous l'avez dit, des migrants en attente pourraient être relocalisés dans toute l'Europe et pas seulement en Italie, en Grèce ou en Espagne.
Alors c'est un sujet qui est hautement inflammable, hein, il divise le Parlement européen. Est-ce qu'il a de réelles chances d'être approuvé ce texte après-midi ?
Alors il faut 353 voix pour que le texte passe et normalement ça passe puisque 417 députés devraient porter le projet avec la droite européenne, avec Renew, le groupe d'Emmanuel Macron, et à gauche, les sociaux-démocrates. Donc, ça passe sans les voix écolo et sans les voix d'extrême droite. Le souci, c'est que dans les groupes qui votent pour, certains se désolidarisent. Raphaël Glucksmann et les Italiens chez les sociaux-démocrates trouvent le texte trop dur. Et les Républicains français, les Polonais à droite l'estiment trop mou. Réponse donc après 17h.
Merci Bénédicte Tassard, chef du service international de RTL.
Le football à présent et cette rencontre au sommet entre le Paris Saint-Germain et le Barça ce soir.
Quart de finale aller de Ligue des Champions, ça se passe au Parc des Princes, coup d'envoi à 21h. Alors les Parisiens partaient favoris lors du tirage, mais Nicolas Georgerot, depuis le Barça, va mieux et le match risque d'être un peu plus serré qu'on ne le pense.
Oui, Barcelone a repris du poil de la bête et il ne faut pas rester sur l'impression des derniers mois. Les Catalans sont invaincus depuis fin janvier, ça fait 11 rencontres d'affilée sans défaite et ce n'est plus l'équipe poreuse, entrevue cet automne, confirme Jules Koundé, le défenseur international du Barça.
Je pense qu'on a retrouvé une solidité défensive qui faisait notre force la saison dernière. On est un peu plus efficace. Donc toutes ces choses font que on est dans une bonne dynamique, on gagne des matchs. On retrouve du plaisir à tout jouer ensemble, à faire des efforts ensemble et on a à cœur de continuer cette bonne dynamique.
Un but encaissé seulement depuis un mois et demi. C'était en Ligue des Champions au tour précédent contre Naples au match retour. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé notamment pour forcer ce verrou ce soir et pour que le Paris Saint-Germain, après avoir écarté la Real Sociedad facilement en huitième de finale, franchisse un palier face à un adversaire qui, 4 fois sur 5, sous l'air qatari au PSG, est sorti vainqueur du duel.
Merci Nicolas Georgerot du service sport de RTL. Et on vous retrouve ce soir, puisque vous commentez le match avec Philippe Sanfourche dans RTL Foot spécial Ligue des Champions, dès 20h45 avec Jean-Michel Rascol.
Voilà, et on vous attend éventuellement, hein, supporters du PSG, si vous voulez intervenir dans les auditeurs ont la parole. N'hésitez pas, 32-10.
Merci.
C'est pas 3-2-1, c'est pas 1-2-3-0, c'est 3-2-1-0.
Voilà. Merci pour cette analyse, Vincent. Et merci, Hermine, pour le journal Le Temps, maintenant, pour cet après-midi. Caroline Chimo.
Mais c'est actuellement plus nuageux, voire humide, en Bretagne et en Normandie, où les averses sont en cours. Les nuages vont déborder sur les Hauts-de-France ou les Pays de la Loire. Là, en revanche, on restera au sec. Et puis, quelques averses sont également attendues entre la Côte d'Azur et la Corse. Averses qui pourraient prendre un caractère orageux sur les reliefs corses en début de soirée. Partout ailleurs, du soleil bien présent, 12 degrés pour Deauville, 13 à Lyon ou à Quimper, 14 à Lille, à Rennes ou à Metz, 16 pour Versailles ou pour Libourne et une maximale de 18 degrés à Marseille.
Merci Caroline, 12h41, on va marquer une courte pause et dans un instant, regardez le prix à la pompe parce que ça flambe. À tout de suite.
Céline Landreau, Vincent Parisot,
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Vincent Parisot,
RTL Midi.
Alors, si vous êtes automobiliste, vous l'avez noté, le passage à la pompe commence à redevenir très douloureux. C'est même du jamais vu depuis 6 mois, par exemple. Donc là, on parle de moyenne. Le prix du sans-plomb 95, 1,90€. En une semaine, le gazole a pris lui aussi 2 à 3 centimes. Il est à près d'1,80€.
Une flambée que l'on va tenter d'expliquer à présent avec vous, Patrice Geoffron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques à Paris Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Bon, expliquez-nous, pourquoi les prix augmentent-ils autant maintenant ?
Il y a plusieurs facteurs qui viennent se combiner. Le premier, c'est que le prix du baril augmente et on observe, c'est mécanique, que quelques semaines après cette augmentation, eh bien, tout ça vient se traduire à la pompe. Et ça veut dire que derrière, le facteur explicatif essentiel, c'est une politique très restrictive de l'OPEP et de ses alliés, notamment la Russie. Donc on est dans un contexte de tension depuis plusieurs années et donc on en observe là un des effets. Par ailleurs, ça c'est un peu plus lointain, mais on va entrer dans ce que les Américains appellent la « drive-in season », la saison durant laquelle les ménages américains prennent beaucoup plus leur voiture. Et par anticipation, ça crée très généralement une tension sur l'essence sans plomb. Et c'est ce qu'on observe, encore une fois, tout cela depuis à peu près la mi-février, par anticipation avec ce qui va se passer au printemps.
Ça, c'est incroyable. Les Européens paient l'essence plus cher parce que les Américains roulent plus ?
Oui, parce qu'on est sur un marché mondial, enfin, qui est un peu perturbé du fait de la guerre. Mais enfin, grosso modo, il y a des interdépendances et on les observe traditionnellement à cette période. Mais encore une fois, ne perdons pas de vue que le facteur explicatif essentiel, c'est tout de même les conséquences à la fois des tensions issues de la guerre et puis par ailleurs d'une politique très, très conduisant à maintenir les prix du pétrole dans une bande aux alentours de 80 à 90 dollars le baril du côté de l'OPEP.
Mais ces tensions, cette guerre dont vous parlez, il n'y a rien de
nouveau.
Là, ça augmente parce que vous parlez de cette driving season aux États-Unis.
La guerre en Ukraine, c'est il y a 2 ans.
Ça veut dire que si rien ne change, l'année prochaine, à la même période, on verra encore les prix flamber parce que les Américains partiront en vacances ?
Alors, on le voit chaque année. Donc,
c'est fou, ça.
Donc, en tant que tel, ça n'est pas réellement une surprise. Et c'est lié au fait que ce marché est mondial et donc il y a des interdépendances entre les différentes zones. Et on n'est pas à l'abri, encore une fois, qu'apparaissent d'autres types de tensions. Au moment où on se parle, il y a toujours dans la mer Rouge eh bien, des menaces militaires et des tensions dans la zone qui pourraient créer également voilà, la déviation d'un certain nombre de flux et avec un impact sur les coûts. Il y a par ailleurs, la guerre n'a pas disparu, il y a également des actions qui sont menées par les Ukrainiens directement sur des raffineries russes, avec d'ores et déjà des dégâts assez significatifs. Et là, par des effets à trois bandes, ça peut conduire sur ce point à des tensions, cette fois, sur le diesel.
Vous n'avez pas de boule de cristal, j'imagine, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà savoir si ces prix ont une bonne chance de rebaisser prochainement ?
Alors, comme il y a une partie de saisonnalité, il y aura peut-être moins de tensions, mais ces prix sont en partie administrés, en tout cas avec la volonté de les réguler du point de vue de l'OPEP. Et ça, nous, pauvres Européens, on n'a pas la main. Un pays comme la France importe 99% de son pétrole. Donc, en observant ces tensions sur les prix, je pense qu'il faut être d'autant plus déterminé à réduire nos consommations de pétrole, à réduire cette dépendance. Encore une fois, il y a une espèce de roulette derrière. On découvre les prix sans avoir aucune capacité d'influence et avec potentiellement un impact macroéconomique assez important.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Patrice Geoffron, professeur de sciences économiques à Paris Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
Alors justement, ces prix que l'on découvre, comme vous le disiez, qui grèvent le pouvoir d'achat des Français, va-t-on pouvoir bénéficier une nouvelle fois d'un coup de pouce du gouvernement pour nous aider à faire le plein ? Bonjour Arthur Bellier.
Bonjour Céline, bonjour Vincent, bonjour à tous.
Vous êtes à l'Élysée pour RTL. Est-ce que le chèque carburant, par exemple, pourrait faire son retour ?
Non, pas de coup de pouce carburant à l'ordre du jour. Pourtant, en septembre, le président lui-même avait promis de maintenir cette indemnité carburant pour cette année 2024. Vous savez, c'est 100 euros versés aux travailleurs les plus modestes qui prennent la voiture tous les jours. Mais en décembre, Bruno Le Maire fait marche arrière et pose sa condition. Le chèque sera versé seulement si le litre frôle les 2 euros. Alors au ministère de l'économie, on surveille les prix, me dit-on. Bercy s'est fixé comme seuil d'alerte les 1,95 € le litre. Mais donc pour le moment, pas de chèque en vue.
Alors, on y est pas, mais on n'en est pas loin quand même, hein, on le disait, hein, 90. Cela dit, si le gouvernement est réticent, c'est simplement parce que cette mesure, ce chèque carburant, coûte très cher.
Eh oui, alors que le gouvernement rabâche le mot d'économie, faire des économies, on l'imagine mal ressortir le carnet de chèques, surtout pour en faire à quasiment 6 millions de Français potentiellement concernés. Faites le calcul, 100 euros versés à près de 6 millions de personnes. Pour le moment, l'État s'économise près de 600 millions d'euros. Pas négligeable dans cette période où le moindre euro de dépense est traqué.
Effectivement. Merci beaucoup Arthur Bellier à l'Élysée, donc pour RTL. On marque une toute petite pause.
Une toute petite.
Le temps des bandes annonces.
Ah oui, parce qu'on est mercredi.
Donc on va parler ciné.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Laissez-vous tenter, vous savez, c'est la culture qui se met à table tous les jours dans RTL midi. Et aujourd'hui, c'est chouette parce qu'on est mercredi et donc on parle cinéma.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Céline, bonjour tout le monde.
Et à la veille de l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes 2024, une nouvelle hollywoodienne ce midi.
Oui, c'était la rumeur depuis quelques temps. Francis Ford Coppola va faire son grand retour sur la croisette. Il a été deux fois Palme d'Or, notamment pour Apocalypse Now, où il a été président du jury. Et il va revenir, figurez-vous, c'est ce que dit la presse américaine en tous les cas ce matin, en compétition avec son nouveau film qui s'appelle Megalopolis, un énorme projet à plus de 100 millions de dollars, un film de science-fiction avec notamment Adam Driver, un film que Coppola prépare depuis plus de 30 ans, qu'il a enfin réussi à financer. Et il sera donc en compétition le 17 mai prochain. Et quand on parle d'Hollywood, ça va être un vrai débarquement cette année à Cannes. On rappelle que George Miller et la suite de la saga Mad Max seront présents hors compétition, que Kevin Costner sera là avec son nouveau western. Et on l'a appris hier soir que George Lucas recevra une palme d'or d'honneur au moment du palmarès. Donc c'est vraiment la mythologie américaine, la mythologie hollywoodienne qui revient à Cannes. Alors je serais tenté de vous dire, c'est un peu le débat stupide et habituel tous les ans, festival élitiste. Je rappelle quand même
Non, c'est stupide, on le fait pas.
On le fait pas ? Non. Alors on le fait pas. Que ces dernières années, on a quand même vu Tom Cruise, Harrison Ford, Jane Fonda, Arnold Schwarzenegger, et plus que jamais en effet cette année, Cannes est au goût du public.
Oui, ça annonce un très beau festival.
On saura tout demain. Hein.
Ouais. Super. On vous retrouve d'ailleurs demain. Vous.
Demain, 12h50, en direct d'un grand cinéma parisien.
En attendant, Stéphane, les sorties de la semaine, quand même, avec une comédie française, Nous, Les Leroy.
Excellente comédie française. C'est un film RTL, film de Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. L'histoire d'un couple qui est en bout de course. Et monsieur, il s'appelle Christophe dans le film, c'est José Garcia, va avoir la bonne, mauvaise idée d'emmener toute la famille, ils ont 3 enfants, remonter le temps et repasser par les étapes marquantes de leur couple. C'est-à-dire, on va visiter le resto, ils se sont rencontrés, etc. Ça va pas marcher exactement comme prévu, parce que madame, elle en a vraiment marre. On se marre vraiment du début à la fin. C'est brillantissime. Charlotte Gainsbourg est un monstre de comédie comme José Garcia et l'alchimie est totale. On va écouter un extrait. Dans le film, Charlotte Gainsbourg, elle vend des voyages, hein, dans une agence de voyage. Elle reçoit 2 garçons qui veulent partir en amoureux au bout du monde. Ils lui demandent conseil. C'est ce qu'on fait dans une agence de voyage. Sauf qu'elle, en ce moment-là, ça va pas du tout dans sa vie. Écoutez.
Vous seriez plus Bali ou Tel Aviv?
Oh non, mon avis...
Non, mais ça peut être un autre pays. On n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait, je sais pas moi, une destination avec votre mari, un truc un peu exotique.
Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. On y va régulièrement. Il y a une attraction où on traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans le cinéma. C'est très bien fait.
Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Baptiste Caplin, Louis Rego, entre autres. Excellent film RTL qui sort donc aujourd'hui. Nous, les Leroy, c'est le grand prix du dernier festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.
Elle est drôle, hein, Charlotte.
Elle est formidable en comédie. On l'avait déjà vu dans le film de Danny Boone il y a quelques mois. Elle est aussi faite pour ça.
Le plus exotique qu'on ait fait, c'est le Futuroscope. Elle était pas mal, celle-là. 2 autres sorties, peut-être en bref, ce mercredi, Stéphane.
Alors, dans un tout autre genre, Rosalie de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskevitz, qui est la nouvelle actrice française qui monte, et Benoît Magimel, tiré d'une histoire vraie. Vous savez, ce qu'on appelait les femmes à barbe au 19e siècle, ces femmes qui avaient une pilosité très très forte et qu'on montrait comme des monstres de foire, souvent dans les cirques d'ailleurs. Et ben, ça raconte comment une jeune femme va être mariée, c'est un mariage arrangé pour sa dot, avec un tavernier, on est en 1870 en Bretagne. Lui, comme tout le reste du village, va découvrir en effet que cette femme doit se raser, parce que sinon elle a une barbe et elle va décider d'assumer cette barbe aux yeux de tous. C'est un film sur l'amour, d'accord, mais aussi sur le regard, sur la différence. C'est assez remarquable. Et puis, dans un tout autre genre, est-ce que vous vous souvenez de ceci ? Ghostbusters, SOS Fantôme, nouvel épisode de la saga. On a rajeuni la saga, ce sont des nouveaux héros, ça s'appelle SOS Fantôme, la menace de glace, en gros une force maléfique, menace de geler tout New York. Ça n'a pas grand intérêt sur le fond, le seul intérêt c'est la nostalgie, parce qu'on adore revoir ça. Et figurez-vous que les héros de la première trilogie, notamment Bill Murray, sont de retour dans ce film-là, confrontés aux gamins, et ça marche, ma foi, très très bien, avec de beaux effets spéciaux.
C'est mieux que Godzilla, ça vous a davantage
plu.
Ah oui,
c'est beaucoup mieux Godzilla.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock et rendez-vous demain, pour 12h50. L'annonce officielle du Festival de Cannes 2024.
Dans 2 minutes, il sera 13h et ce sera à vous de jouer, à vous de prendre votre téléphone, de faire le 3210, de commenter l'actualité. Les sujets sont nombreux, évidemment. Il y a l'aide à mourir, il y a l'expérimentation de la légalisation du cannabis, le prix des carburants et les fonctionnaires. Faut-il pouvoir les licencier plus facilement ? 3, 2, 1, 0, on est parti. On est ensemble jusqu'à 14h30.
RTL Midi.